Upload UTC, l'université populaire du libre, ouverte, accessible et décentralisée à l'UTC. Ce semestre, écrire, communiquer et collaborer sur le web par Stéphane Crozat.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Donc bienvenue sur le cours émission de l'UTC WE01, écrire, communiquer et collaborer sur le web. Donc je m'appelle Stéphane Crozat et je suis accompagné d'Audrey Guélou. Bonjour Audrey.
Bonjour Stéphane.
Merci encore à Graphite de nous accueillir pour cette expérience et à Léo pour la réalisation. Alors cette semaine, on va parler de méthodes agiles. Si vous souhaitez approfondir la thématique, ou d'ailleurs une autre de ce cours, eh bien vous pouvez vous rendre sur librecours.net. Vous y trouverez un support écrit, des exercices, etc. Les cours émissions peuvent être réécoutés sur Peertube, qui est un média libre et décentralisé de partage audiovisuel, à l'adresse aperi.tube, et rechercher Upload une fois que vous êtes là-bas. Audrey, si jamais des personnes nous écoutent et veulent poser des questions, est-ce possible ?
Oui, eh bien, si vous avez des questions, vous pouvez les poser via différents outils, via l'outil de messagerie instantanée Mattermost à l'adresse team.picasoft.net, team.picasoft.net, ou bien donc, dans l'équipe WE01 Canal Live, ou directement sur le pad pad.picasoft.net/p/WE01, ou bien encore sur Twitter et Mastodon avec le hashtag Upload. Donc je lirai les questions à Stéphane.
Merci Audrey. Alors ce second cours de l'année est une introduction aux méthodes agiles. Derrière ce terme se cache une approche de réalisation de projet, de management de projet, qui est très utilisée en informatique en général et dans le domaine du web en particulier aujourd'hui. Et les étudiants de l'UTC qui suivent l'UVW01 eh bien, suivent une méthode de type agile pour la réalisation d'un mémoire site web ce semestre. Alors on va parler, je vais commencer par faire une rapide critique des méthodes non agiles, dites traditionnelles. On va voir rapidement les problèmes qui sont posés. On fera un petit point de focus sur la théorie de l'engagement, parce que je trouve ce concept assez intéressant. On présentera bien sûr l'approche agile et en particulier en quoi ça permet de passer de la logique de planification au pilotage. On insistera sur les caractéristiques et avantages de la gestion agile. Et ensuite, on verra quelques outils agiles. On parlera de timeboxing, product backlog, journal de bord, fiche de temps. On verra un petit peu jusqu'où on ira selon le temps dont on dispose. Et puis, on terminera avec une petite discussion sur les limites des approches agiles. Alors avant de commencer, on va, comme la fois dernière, présenter quelques livres. Alors moi, je vais en présenter un tout de suite. Audrey, tu présenteras le tien un petit peu plus tard dans le fil du cours. Alors je vais parler d'un livre qui n'est pas tout à fait en lien avec les approches agiles, qui n'est pas très en lien en fait avec les approches agiles. On verra, il se raccroche quand même au moment où on va parler justement de théorie de l'engagement. Donc ce livre, c'est Un démocrate, édité chez CF Éditions. Alors c'est un livre un peu particulier, surtout dans un cours de l'UTC, puisqu'en fait c'est une pièce de théâtre, donc qui a été écrite par Julie Timmerman, donc en 2020. Et cette pièce de théâtre, eh bien, elle présente un personnage qui s'appelle Edward Bernays, qui est l'auteur de l'ouvrage qui s'appelle Propaganda, qui a été édité en 1928. Alors pour vous présenter rapidement cette personne, eh bien je vous lis tout simplement la première phrase de Wikipédia. Il est considéré, donc Edward Bernays, comme le père de la propagande politique et d'entreprise, ainsi que de l'industrie des relations publiques, qui ont fortement contribué à développer le consumérisme américain. L'idée est que, donc ce qui est présenté dans cette pièce de théâtre, suivi de quelques essais ensuite, voilà, dans le même livre, eh bien, c'est en quoi justement les techniques de propagande, tout à fait revendiquées par cette personne, hein, c'est pas du tout quelque chose d'obscur, c'était vraiment des outils tout à fait volontaires, ont été mis en place. Alors une petite citation de la pièce de théâtre, je vais le lire comme un ouvrage, n'étant pas acteur moi-même. Donc, mais pour écouler toutes ces fortes T, il faut que les gens achètent. Or, les gens achètent par besoin et les besoins sont limités. Donc, il faut que les gens achètent par désir. Car les désirs, eux, sont infinis. Donc c'était un extrait donc de Un démocrate, la pièce de théâtre de Julie Timmerman aux éditions CF Éditions. Si la thématique vous a intéressé, évidemment, je vous invite à lire le livre. Et puis il y a eu un documentaire sur Arte, Propaganda, la fabrique du consentement, Et je cite également un article du Monde Diplomatique, Édouard Bernays, publicitaire de lui-même, qui propose une lecture un peu moins personnalisée et remet un peu les choses en perspective au niveau du développement, on va dire, des multinationales au XXe siècle. Voilà pour cette présentation d'ouvrage. Alors on va démarrer le cours à présent avec la première partie et donc une rapide critique des méthodes traditionnelles. Alors ce que l'on appelle les méthodes traditionnelles, hein, je vais pas rentrer en détail là-dedans, mais dans les méthodes de gestion de projets traditionnels que les ingénieurs connaissent bien, eh bien l'enjeu est de planifier les choses, puis ensuite de réaliser, eh bien évidemment ce dont on a fait le plan, ce dont on a fait le programme. Alors évidemment, il y a un certain nombre de logiques de rétroaction qui permettent de gérer les évolutions et les imprévus dans le projet, mais globalement, on a une séquence de type recueil des besoins, ce que l'on a envie de faire, analyse fonctionnelle, essayer de définir le système en termes des fonctions qu'il doit rendre, conception technique, traduction des fonctions en principes techniques que l'on va pouvoir réaliser, réalisation de ces principes concrètement, et ensuite un certain nombre d'éléments de tests, et puis ensuite mise en place concrète du produit qu'on a réalisé. Alors je vous en fais évidemment ici une description extrêmement rapide, mais c'était juste pour garder à l'esprit cette logique de séquençage, encore une fois, même si, hein, je le reprécise, les méthodes dites traditionnelles ont largement réintégré un certain nombre de principes de rétroaction qui permettent de ne pas suivre évidemment aussi linéairement les choses. Néanmoins, et ça va être un des points qui vont faire que les méthodes agiles vont rencontrer du succès au début des années 2000, eh bien, ces méthodes dites traditionnelles, comme je l'ai dit, elles sont fondées sur le principe de planification de l'ensemble du projet. Pour faire, encore une fois, caricaturer, dire les choses un peu rapidement, un, on dit ce qu'on veut, deux, on fait ce qu'on a dit. Le problème, c'est que, un, en général, on ne sait pas ce qu'on veut, et deux, en général, on n'arrive pas à faire ce qu'on a dit. Donc du coup, ça pose un problème, c'est-à-dire que l'assise même de la méthode repose sur des principes dont on se rend compte que dans nos environnements mouvants modernes, eh bien en fait, ils sont à peu près inapplicables. Alors, je vais vous citer un extrait d'un ouvrage qui s'appelle « Gestion de projet vers les méthodes agiles » que je recommande à toutes les personnes qui seront intéressées, écrit par Véronique Messager-Rota aux éditions Erol. Donc, voilà, que j'ai surtitré ou « La certitude de l'incertitude ». Nous ne savons pas précisément ce que nous allons développer. Le client ne sait pas toujours ce qu'il veut. Nous ne connaissons pas toujours les individus qui seront amenés à collaborer dans l'équipe. Nous n'avons souvent qu'une idée partielle de la solution. Et nous ne maîtrisons pas toujours les technologies. Donc ces éléments-là, hein, sont encore une fois des éléments qui sont en fait extrêmement courants, extrêmement normaux dans le cadre d'un projet. Ce ne sont pas du tout exceptionnels. Et donc le problème de la planification, eh bien, se pose sur ces bases-là, et d'autant plus que l'on est dans des contextes d'innovation, de technologies nouvelles, d'équipes nouvellement constituées, et quand on connaît aujourd'hui le turnover, le renouvellement des équipes dans les entreprises, eh bien, encore une fois, ce sont des problèmes assez, assez courants. Alors, pour donner quelques exemples de problèmes concrets, hein, que l'on rencontre, eh bien, un des premiers problèmes, c'est ce que l'on appelle l'effet tunnel. Le principe de l'effet tunnel, c'est que les utilisateurs et les concepteurs vont se voir au début du projet. Ils vont se voir beaucoup, ils vont travailler ensemble justement sur toute le recueil des besoins et l'analyse fonctionnelle, etc. Ils vont se voir également à la fin du projet ou à la fin de certaines étapes du projet. Mais en fait, ils ne sont pas dans une logique de partage du projet. C'est-à-dire qu'ils se voient à certains intervalles, mais du coup entre les deux, eh bien ils ont du mal à partager leurs idées, leurs informations. Et ça engendre cette mauvaise communication, eh bien engendre notamment une levée tardive des projets, hein, d'où l'idée d'effet tunnel. Eh bien on est enfermé dans un tunnel et quand on sort du tunnel, on se rend compte que il y a plein de choses qui vont pas. Et évidemment c'est toujours plus compliqué de revenir en arrière dans ce cas. Un deuxième effet, hein, encore une fois de ces aspects d'incertitude, la difficulté à gérer ces incertitudes, c'est ce que j'ai appelé l'assurance doc, hein, au sens de document, comme ce que je vous ai raconté au départ, c'est-à-dire que les projets se passent mal en général, tout le monde le sait, hein, c'est pas du tout un scoop que je vous donne, et bien du coup, à la fois le client et le fournisseur, comme ils savent, encore une fois, que ça devrait normalement mal se passer, et bien ils vont passer beaucoup de temps à essayer d'organiser l'étape de gestion des problèmes qui vont survenir. Et du coup, ça peut entraîner un décalage, hein, si je caricature un petit peu, mais on va passer d'un objectif de gestion de projet, qui consiste à réaliser un projet, à un objectif de gestion de responsabilité, qui consiste à laisser un projet mal se dérouler, et par contre à faire en sorte qu'au moment où ça se passera mal, eh bien, on n'en subisse pas trop les conséquences, et que ce soit plutôt l'autre partie qui en subisse les conséquences. Alors encore une fois, je dresse un tableau un petit peu noir, hein, pour mettre en exergue les choses, mais encore une fois, c'est quelque chose d'assez communément admis, et c'est ce qui fait que, dans un certain nombre de projets d'ingénierie, eh bien, on va passer beaucoup de temps à contractualiser, documenter un certain nombre de choses pour pouvoir dire, encore une fois, au moment où ça se passera mal, bah regarde, c'est de ta faute, c'est pas de la mienne. Alors, évidemment, ce processus, on voit bien qui détourne l'attention, in fine, de ce qui devrait nous concerner, c'est-à-dire mener à bien, en tant que tel, le projet. Un dernier point que j'ai introduit et sur lequel je reviendrai rapidement, mais on va faire une petite pause entre les deux, c'est la question du coût du changement d'avis. Mais on va écouter un premier extrait, on va ponctuer ce cours de quelques extraits. Donc un premier extrait, Léo, c'est parti.
Alors avant de commencer à parler de méthodes agiles, moi j'aime bien commencer par parler d'agilité. Parce qu'une application bête des méthodes agiles, c'est-à-dire sans comprendre le fondement de ces méthodes, peut avoir à la fin un effet complètement contre-productif et conduire plutôt à une privation d'agilité qu'à la mise en œuvre de l'agilité. Donc l'agilité, c'est quoi ? En quelque sorte, ce serait la faculté à toujours rester en équilibre dans un environnement qui est changeant, instable, mouvant, incertain.
Alors c'était Valérie Moreau, enseignante-chercheuse à l'UTC, en charge du cours de gestion de projet SH3.
Alors, je voudrais juste te poser une petite question, Stéphane. Alors, juste pour reprendre, hein, donc là, Valérie insistait juste sur justement la nécessité de comprendre ce qu'est l'agilité en soi avant de se focaliser sur l'application des méthodes agiles, et donc la nécessité de comprendre que, eh bien, le cœur des méthodes agiles, c'est cette faculté de se maintenir à l'équilibre dans une situation incertaine, le fait de rester en équilibre face aux changements et aux imprévus. Et donc, juste avant, Stéphane, tu nous expliquais que dans les méthodes traditionnelles, que ce soit en cascade, en V ou bien en spirale, eh bien on se focalisait sur la planification de phases de réalisation qui sont bien distinctes les unes des autres, comme si on avait tous les paramètres en main au début du projet, d'un projet complexe, pour savoir exactement ce que l'on veut, et puis aussi pour savoir, comme si l'on pouvait suivre un plan bien huilé et fixé sur plusieurs mois ou années en avance. Or, qui dit complexité, dit incertitude, etc. Tu nous as parlé des problèmes qui en viennent ensuite. Mais pourtant, moi, eh bien, on m'a toujours appris au départ qu'il fallait m'organiser en établissant des plans et puis que je devais m'y tenir, que pour des projets individuels ou collectifs, la mise en place d'un plan ou d'un fameux rétro-planning, par exemple, était une des premières choses à faire. Alors, est-ce que tout ça veut dire que je dois arrêter de faire des plans, ou bien est-ce que, en fait, ces plans ne servent que lorsqu'on sait exactement le résultat que l'on souhaite, et puis ça, ce n'est pas le cas quand on se place dans une démarche d'innovation ?
Alors tu me poses une question, Audrey, qui nous renvoie quasiment à la fin de ce cours, donc on aura l'occasion d'y revenir, mais effectivement tu as raison, l'idée n'est pas de renoncer à toute forme de planification et encore moins toute forme d'organisation, hein. J'enseignais avant les bases de données, j'expliquais qu'il fallait passer par justement un processus analytique de ce point de vue-là, et je ne me dédie pas, mais l'idée est en quelque sorte de faire un compromis. Alors, le premier compromis, c'est de ne pas mettre toute son énergie sur la planification, et on va le voir, je vais vous parler de théorie de l'engagement, on va voir une des bonnes raisons justement pour ne pas en mettre trop d'énergie sur cette logique de planification. Et puis ensuite, on va le voir également avec la suite, l'idée c'est que cette énergie qu'on va économiser sur la planification, eh bien on va pouvoir la réutiliser pour organiser justement la gestion de l'incertitude. Et tout l'enjeu, ça va être d'accepter cette incertitude et d'être en sorte d'être capable d'y réagir correctement lorsqu'elle va survenir, encore une fois, on l'a vu, quasi inévitablement. Alors, une fois que ceci est dit, évidemment, hein, il reste des phases dans lesquelles il est bon de planifier, il est bon de schématiser, il est bon d'organiser les différents éléments du projet. Je vais vous reparler un petit peu du coût du changement d'avis. Alors, une question qu'on pourrait se poser, c'est justement, ça rejoint peut-être un peu ta question, mais est-ce que changer d'avis, en fait, c'est mal ? Est-ce que ça veut dire que on s'est pas bien organisé, on n'avait pas bien prévu au départ ce que l'on allait faire, donc en fait, on a fait une erreur. Alors, l'idée générale était plutôt de répondre non à cette question, c'est-à-dire que c'est normal dans la vie d'un projet de se rendre compte petit à petit et eh bien que des choses ont évolué, que effectivement personne n'est parfait, donc à un moment on a peut-être aussi mal pensé des choses, mal conçu des choses. Encore une fois, ça c'est pas grave. Ce qui est entre guillemets plus grave, c'est de ne pas être capable de revenir en arrière à partir de là. Alors le problème du changement d'avis se passe à deux niveaux. Il y a un problème, c'est le coût réel de ce que l'on a déjà fait. Alors ça, effectivement, dans les projets traditionnels, ce qu'on appelle, enfin, brick and mortar, hein, les projets avec des briques et du mortier, les vrais trucs, voilà, où on construit des maisons, des immeubles, etc. Évidemment, si on change d'avis une fois que la moitié de l'immeuble est monté, eh bien, on se rend compte que c'est un coût très important. Donc ça reste vrai dans le domaine de l'informatique et du web, mais en général, le coût du changement d'avis est moins important, puisqu'encore une fois, on met un petit peu moins de ciment dans les projets. Donc ça, c'est quelque chose d'assez communément admis, mais je voudrais insister sur un autre point, qui est le coût psychologique. Et je vais l'illustrer à travers la théorie de l'engagement. Alors c'est une théorie qui est notamment présentée dans un livre que je recommande vraiment, qui s'appelle « Petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens », écrit par Robert-Vincent Joule et Jean-Léon Beauvois, et est disponible aux presses universitaires de Grenoble, daté de 2004. Donc ce que ces chercheurs ont mis en exergue, eh bien, c'est qu'en fait, il y a un lien entre les décisions que l'on prend à un instant T et les décisions que l'on a prises préalablement. Alors je vais l'illustrer rapidement. Je commence par une petite citation de ce livre. On sait aujourd'hui que l'émission en toute liberté d'un acte coûteux peut rendre plus probable l'émission ultérieure d'actes encore plus coûteux qui s'inscrivent dans sa continuité. C'est ce qu'ils appellent un cas d'auto-manipulation. En fait, lorsque l'on s'engage dans une suite d'actions, eh bien ensuite on a du mal à s'en extraire, chaque action renforçant la suivante. L'idée générale, je vous la donne, puis ensuite on va voir un petit exemple, c'est que, imaginons un individu que j'appelle I1. Il effectue à un instant T une action A1. Quelle que soit la raison pour laquelle il l'effectue, qu'il ait raison ou pas, peu importe. Si I1 doit prendre la décision de mener ou pas une action A2, donc successive à A1, eh bien, en fait, il sera beaucoup plus enclin à décider de faire A2 s'il a déjà fait A1 que s'il ne l'avait pas fait. Et si ensuite on imagine A3 lié à 2, eh bien, ce sera encore plus vrai. Et l'idée, c'est qu'ainsi, on va rentrer dans une chaîne de décisions qui font que plus on aura pris des décisions positives en faveur d'une série d'actions, plus les actions ultérieures vont nous engager. Alors un petit exemple trivial, mais qui va nous permettre d'illustrer ça, je pense qu'un certain nombre de vous reconnaîtrez là-dedans. Donc imaginez, vous êtes en train de rentrer chez vous, vous avez à peu près 20 minutes de marche ou 10 minutes de bus. Voilà, c'est votre trajet quotidien, vous le savez très bien. Il se trouve qu'aujourd'hui vous êtes un peu fatigué, au moment où vous passez devant l'arrêt de bus, celui-ci affiche « prochain bus dans 5 minutes ». Comme on l'a vu, on est un petit peu fatigué, peut-être qu'il pleut. On décide donc d'attendre le bus, donc dans l'objectif de gagner 5 minutes de trajet et d'économiser la durée de marche. Et puis, quelques secondes ou minutes passent et l'arrêt de bus affiche à présent retard, prochain bus dans 10 minutes. Alors si on fait l'analyse de la situation présente, eh bien on se retrouve dans un temps à présent équivalent entre attendre le bus 10 minutes puis rester dans le bus 10 minutes ou faire 20 minutes de marche. On va décider d'attendre encore. Néanmoins, donc dans mon cas, la question intéressante, c'est si on était arrivé directement à l'arrêt de bus, donc si l'action que l'on avait dû prendre immédiatement était directement retard prochain bus dans 10 minutes, on serait arrivé, on se serait dit, en fait c'est le même temps de marcher ou de prendre le bus, et le bus est en retard. S'il est en retard, c'est pas très bon signe, ça va peut-être s'aggraver. Il est assez probable qu'on aurait pris la décision de marcher. Reste la fatigue, donc admettons que ce ne soit pas le cas. Quelques minutes passent, et l'arrêt de bus va afficher à présent « retard, prochain bus dans 20 minutes ». Eh bien, dans une situation comme celle-ci, il est intéressant de voir qu'il y a un risque, enfin une probabilité non négligeable, que vous décidiez d'attendre, de continuer d'attendre le bus, alors qu'évidemment, là, on va perdre du temps, on va mettre plus de temps que si on marchait. On sait que ça va nous prendre au moins 30 minutes encore de prendre le bus, sachant qu'il y a déjà eu deux retards, donc il est probable que ça continue encore. Et là, cette décision à l'étape 3, en fait, il est quasiment certain qu'on ne l'aurait jamais prise si on n'était pas passé par les étapes 1 et 2. Alors, si vous n'êtes pas usager des bus, eh bien, peut-être que, ou alors si vous êtes usager des bus compiénois qui ne sont jamais en retard, eh bien, peut-être que, effectivement, vous n'êtes pas tout à fait sensible à mon exemple. Mais en fait, si vous analysez des situations du quotidien, vous vous rendrez compte que, eh bien, il est assez fréquent d'être dans cette situation où on prend une décision que l'on n'aurait pas prise si on n'avait pas déjà préalablement pris des décisions qui nous y engageaient. Alors un petit conseil, et je termine là-dessus, qu'on retrouve dans ce petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens. Hein. À l'usage des honnêtes gens, on veut dire ici apprendre ces logiques de manipulation pour être en mesure, au moins en partie, d'y résister. Mais donc ce à quoi nous invitent les auteurs, c'est un, d'apprendre à revenir sur une décision, et deux, savoir considérer deux décisions successives comme indépendantes.
Les méthodes de gestion de projet traditionnelles, elles recherchent plutôt la stabilité. Et pour ça, elles figent l'organisation dans l'espace, dans le temps, quelle que soit l'évolution de l'environnement autour. Donc elles cherchent à prévoir de manière à assurer le fait qu'il y ait un minimum d'aléas qui surviennent. Donc elles sont super performantes quand l'environnement est lui-même stable ou qu'il est très prévisible. Quand il y a quelques aléas qui surviennent par la suite, du coup ils sont traités comme des problèmes dans le but de retrouver la stabilité escomptée au départ. Quand on est dans un environnement qui est instable, complexe et peu prévisible, du coup la recherche de stabilité elle devient contre-productive car tout devient problème, on passe l'essentiel de son énergie à essayer de prévoir l'imprévisible et à gérer des problèmes qui de toute façon vont survenir.
Donc si je fais un parallèle correct entre la théorie de l'engagement que tu viens de nous expliquer, Stéphane, et ce que vient d'expliquer aussi Valérie, c'est que la clé serait donc de ne pas trop s'attacher au plan de départ pour atteindre une destination, mais bien d'être en mesure de remettre en question ce plan à chaque changement de l'environnement, ou plutôt de façon régulière. Alors Stéphane, je voudrais te poser une question de Yann, qui te demande si ce principe, donc j'imagine que c'est le principe lié à la théorie de l'engagement, a un lien avec la sunk cost fallacy. Alors, je ne sais pas si tu sais ce que c'est que la sunk cost fallacy, je ne sais pas ce que c'est. Donc, tu vois, de manière très subreptive, j'ai fait une petite recherche. Et donc, en fait, c'est la traduction en français, ce serait le coût irrécupérable. C'est une notion en économie comportementale. Voilà. Donc, ce sont les coûts qui ont déjà été payés définitivement et qui ne sont ni remboursables ni récupérables par un autre moyen. Merci Wikipédia. Est-ce que le principe de la théorie de l'engagement a un lien avec ceci ?
Alors, ne connaissant pas cette théorie, je ne vais donc pas m'y aventurer, donc je ne sais pas. Disons que ce que l'on peut, enfin encore une fois, ce qui est intéressant, je réponds à côté, hein, je réinsiste à côté et je laisse peut-être Yann nous dire si in fine il pense que c'est un lien ou pas. Ce qu'il y a d'intéressant dans la théorie de l'engagement, c'est que c'est vraiment la partie du coup psychologique, c'est-à-dire quelque chose qui vu de l'extérieur est totalement irrationnel. Il y a bien sûr dans l'engagement une partie qui est tout à fait rationnelle, c'est-à-dire qu'à un moment, si j'ai investi sur une partie du projet, je reprends l'exemple de mon immeuble tout à l'heure et que j'ai construit la moitié, si je me rends compte évidemment que j'aurais mieux fait de faire autrement, mais qu'in fine ça va me coûter plus cher de tout refaire, c'est tout à fait rationnel de décider de faire quelque chose de moins bien à ce stade que ce qu'on aurait pu, mais qui va me coûter moins cher ou qui va me prendre moins de temps. Dans l'exemple que je prenais dans le bus, quand on arrive à la troisième étape, on prend une décision totalement irrationnelle qu'on n'aurait jamais prise dans un autre cas. Donc je ne sais pas si ça va faire le lien avec cette théorie dont nous parlait Yann, et s'il a lui-même la réponse, eh bien il pourra nous le préciser pour la suite peut-être. On enchaîne du coup ?
On enchaîne, Yann, je te laisse continuer sur ma thermos, mais on enchaîne.
Alors, donc je vais vous présenter maintenant les grands principes de l'approche agile, donc que j'ai sous-titré de la planification au pilotage. L'idée générale, c'est que le fondement des méthodes agiles, eh bien, puisqu'il n'est pas possible de tout prévoir correctement, c'est qu'on va essayer de mieux... on va essayer de planifier au niveau macro uniquement, donc ça répond aussi à ta question de tout à l'heure d'Audrey, il ne s'agit pas de partir totalement n'importe où, on ne monte pas juste dans sa voiture en se disant « allez, filons et puis on verra bien ». On a comme objectif peut-être de faire un Compiègne-Marseille, donc on a quand même une planification, on sait qu'on envisage de le faire peut-être en deux jours, donc il faudra faire un arrêt peut-être à mi-chemin, peut-être à Lyon, voilà. Donc on a un plan au niveau macro, mais... au niveau micro, eh bien, on n'a pas défini chacune des étapes et on va pas tout prévoir. Et donc, puisqu'on ne va pas tout prévoir au niveau micro, eh bien, et qu'on va piloter, il faut se doter d'outils de pilotage. Si on ne le fait pas, alors là, pour le coup, on va être effectivement uniquement dans l'improvisation et l'incertitude. Et encore une fois, l'approche agile n'est pas une approche qui consiste à, entre guillemets, ne rien organiser. Il s'agit bien d'organiser différemment. Alors, si je reprends une citation de l'ouvrage que j'ai déjà cité tout à l'heure, donc de Véronique Messager-Rota, Gestion de projet vers des méthodes agiles, eh bien, on nous dit qu'une méthode agile est une approche itérative et incrémentale, on va voir que c'est deux mots importants, qui est menée dans un esprit collaboratif avec juste ce qu'il faut de formalisme. En fait, dans cette définition, on a à peu près tous les mots-clés dont on a besoin, et je vais y revenir un petit peu. Mais je cite d'abord également un autre extrait donc de l'Agile Manifesto, donc le manifeste agile, qui est une sorte, on va dire, de référence sur le sujet des méthodes agiles, qui, sauf erreur, je l'ai plus noté, mais doit dater de 2001. Donc je vous en cite une traduction donnée dans le même ouvrage. Les individus et leurs interactions avant les processus et les outils. Donc on va essayer de recentrer le projet sur l'humain, et du coup le ressenti des humains, l'expérience qu'ils vont vivre, plutôt que le respect de processus, de procédures et des outils associés. Donc encore une fois, Audrey, tu disais tout à l'heure, on nous a dit qu'il fallait commencer par faire un PERT ou un Gantt et un rétro-planning, etc. Ouais, super, mais c'est secondaire. La première chose qui va être importante, c'est la dynamique elle-même du projet, la façon dont les gens interagissent. Deuxièmement, des fonctionnalités opérationnelles avant la documentation. C'est-à-dire que c'est, encore une fois, il ne s'agit pas de dire que la documentation ne sert à rien, mais bien documenter un truc qui ne sert à rien, là pour le coup, c'est contre-productif. La collaboration avec le client plutôt que la contractualisation des relations, donc ça c'est quand même assez révolutionnaire, ou en tout cas assez inhabituel, on va dire, quand ça arrive dans les années 2000. Hein. L'idée est vraiment de dire, eh bien, l'énergie qu'on passe à créer des contrats avec des juristes, eh bien, on va essayer de le passer plutôt à comprendre son client et à tisser des relations qui vont faire qu'on sera en capacité de gérer les incertitudes avec eux. Et enfin, l'acceptation du changement plutôt que la conformité au plan, on en a parlé également, là du coup, je pense assez fortement. Alors avant de rentrer un tout petit peu dans le détail des différents points qu'on a cités, hein, itératif, incrémental, collaboratif et juste ce qu'il faut de formalisme, je mentionne rapidement que je parle de méthodes agiles depuis tout à l'heure, et c'est l'angle que j'ai voulu prendre dans le cadre de ce cours, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de présenter une méthode agile, mais il existe justement des méthodes agiles bien identifiées qui exposent des principes plus précis que ceux que je vous donne là, hein. Je me contente moi de donner des lignes directrices que l'on retrouve à peu près dans ces méthodes, et donc je vais juste rapidement en citer une ou deux. Donc par exemple, une des plus connues, on va dire la méthode Scrum, S-C-R-U-M. Il y a également l'Extreme Programming, ce qu'on appelle le Rapid Application Development, RAD, etc. Donc je ne les cite pas tous, je n'en suis d'ailleurs pas du tout un expert, mais toutes ces méthodes partagent à peu près les principes que je vous ai cités, et vont les décliner de différentes façons. Alors, je vais très rapidement ajouter un ou deux points, hein, donc la plus concrète par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc le principe d'itératif et incrémental, je vais le réillustrer un petit peu plus tard avec les outils, on va voir de type product backlog que l'on va utiliser, et l'enjeu ça va être étape par étape, et bien de venir rajouter des morceaux à ce que l'on fait. Encore une fois, plutôt que de tout construire d'un coup et de donner d'un coup un gros bloc, et bien on va essayer de modulariser notre création et du coup, petit à petit, et bien de la valider au fur et à mesure. On voit bien que du coup, le coût matériel du changement d'avis est diminué, puisque si on se trompe, et bien on se trompera sur une petite partie et pas sur l'ensemble. J'ai parlé de collaboratif, hein, donc l'idée va être d'utiliser des outils de communication plus informels, donc on va utiliser le téléphone, le mail, beaucoup aujourd'hui les outils de messagerie instantanée, de chat, dont pareil je reparlerai un tout petit peu en fin de cours. Et puis on va adopter des organisations en équipe souples, donc des organisations horizontales basées sur la co-décision. Le chef de projet n'est plus celui qui décide et celui qui dit à chacun ce qu'il doit faire, mais plutôt quelqu'un qui, bien sûr, tranche quand c'est nécessaire, et puis surtout essayer d'organiser, de maintenir la dynamique de groupe. On va favoriser le travail en binôme. Étant donné qu'on a réduit la quantité de formalisme, et bien évidemment, si un des membres du projet vient à faire défaut, par exemple parce qu'il quitte le projet, quelle qu'en soit la raison, évidemment, il risque de partir avec une partie de savoir non formalisé. Alors, pour diminuer les conséquences de cela, et bien, on va favoriser le travail en binôme, donc il y aura une autre personne qui est au courant également de ce qui a été, enfin de ce que la personne qui a fait défaut a emporté. Ça implique également, pareil, quelque chose qui n'est pas forcément aussi habituel dans les méthodes classiques, mais un très fort partage de l'information et du travail. C'est-à-dire accepter à un moment que quand on produit quelque chose, eh bien très vite, on le rend disponible aux autres. Donc c'est les serveurs de code source, par exemple, avec Git en informatique. C'est la mise à disposition d'une documentation, même si elle n'est pas parfaite, même si elle n'est pas finalisée. On va accepter en fait de partager une information qui n'est pas encore aboutie et de partager des morceaux de produits qui ne sont pas encore aboutis. Et donc ça suppose évidemment de la part des personnes qui vont lire, qui vont accéder à ces informations, eh bien une certaine tolérance en quelque sorte, puisque évidemment on sait aussi qu'on va avoir des éléments dans un état intermédiaire. Peut-être un dernier point, hein, parle également de polyvalence, donc c'est aussi quelque chose d'assez intéressant, c'est-à-dire que, eh bien, on va essayer de faire en sorte que les personnes soient plus facilement capables d'intervenir sur tel ou tel aspect du projet. Voilà, donc les avantages, hein, de ces méthodes agiles, je pense qu'on les a rapidement en contrepoint, en quelque sorte, des défauts qu'on avait donnés. Mais donc une meilleure communication, hein, une meilleure visibilité, on va travailler sur des objets et non plus sur de l'information concernant ces objets. Une gestion en continu, une détection des problèmes au fur et à mesure, et puis une équipe plus solide, hein, et donc on va avoir une valeur ajoutée, une visibilité qui vont être apportées au fur et à mesure et non plus en fin de projet.
Donc l'agilité, elle permet au contraire de faire de l'aléa la norme, voire de considérer cet aléa comme une opportunité et d'être en permanence dans une recherche d'équilibre dans un mouvement continu. Donc les méthodes agiles, elles ont pour objectif d'outiller cette agilité parce qu'elles nécessitent un formalisme qui est très différent des méthodes traditionnelles.
Alors c'est vrai qu'en t'écoutant expliquer qu'une organisation agile était horizontale avec une communication plutôt informelle, que les rôles pouvaient être définis de façon assez souple et qu'il y avait moins de spécifications, que tout cela est aussi une question de bon sens, on peut se demander si en fait la méthode agile c'est pas du freestyle complet. Bon, tu disais que non, il y avait bien un formalisme, et puis Valérie vient juste de parler justement d'un formalisme qui est pour le coup différent de celui des méthodes traditionnelles, donc il y a bien un formalisme à respecter en agile. Bon, moi je ne vais pas te poser de questions immédiatement parce qu'en fait on a une question sur Mattermost d'un étudiant, donc de Ryan, qui te demandait, qui revenait sur les différentes méthodes agiles et qui se demandait ce qu'était Scrum, si c'était un framework ou bien une méthode. Et je vais juste répondre avec la réponse de Philippe, puisque Philippe, merci, tu as répondu directement en citant que Scrum est un framework ou un cadre de développement de produits logiciels complexes. Il est défini par ses créateurs comme un cadre de travail holistique, itératif, qui se concentre sur les buts communs en livrant de manière productive et créative des produits de la plus grande valeur possible. Est-ce que Stéphane, tu souhaites ajouter quelque chose, ou bien Philippe, tu as parfaitement répondu?
Non, non, c'est effectivement, Scrum typiquement est une approche derrière holistique, c'est donc complète, hein, c'est-à-dire qu'effectivement ça vient à la fois avec les outils, avec la façon de travailler, donc c'est vraiment une logique. Si vous suivez une formation Scrum, on va vous expliquer, entre guillemets, de A à Z, comment vous organiser, là où moi, à travers ce cours, on ne fait que vous donner des principes. Donc effectivement, si demain vous souhaitez passer concrètement à des méthodes agiles, eh bien il est tout à fait intéressant d'aller approfondir ce genre de méthode, en gardant également à l'esprit, hein, j'en profite peut-être pour faire cette toute petite incise, que parfois, certains vont rentrer dans une logique de méthode agile, comme par exemple celle de Scrum, et in fine l'appliquer de façon tellement rigide que ça redevient des méthodes qui vont perdre leur agilité en cours. Donc il faut voir que c'est pas, quelque part, c'est pas parce que vous faites du Scrum que vous faites de l'agile. Et puis à l'inverse, peut-être qu'on... J'ai peut-être dit ça un tout petit peu en introduction, mais on va se rendre compte que certaines méthodes dites traditionnelles, en fait, ont été suffisamment réaménagées, pensées de façon intelligente pour, in fine, conserver en elles beaucoup, beaucoup d'agilité. J'ai déjà pas mal parlé des avantages des méthodes agiles, hein. Je vais probablement refaire un tout petit complément là-dessus, mais et peut-être d'ailleurs aussi en lien avec la question que tu viens de poser, Audrey. Mais j'ai coutume de dire effectivement à peu près à ce stade de la présentation en général que finalement une méthode agile, il y a quand même un côté méthode de Monsieur Jourdain, c'est-à-dire que c'est avant tout une méthode de bon sens dans laquelle on va effectivement essayer de travailler en bonne intelligence. Alors ça paraît un peu bizarre de dire ça parce que on se demanderait pourquoi faire autrement, mais on se rend compte, hein, et c'était un petit peu le sens de mon introduction, que eh bien lorsque justement on met trop de formalisme, qu'on met trop d'intrication entre, encore une fois, les modes de travail, eh bien, on a du mal, on va perdre, en fait, cette bonne intelligence. Donc, l'idée générale de la méthode agile, on l'a vu, c'est être réactif, accepter de changer d'avis, quand ça a du sens, hein, pas tout le temps, suivre de près son projet, y compris quand on est le client, c'est-à-dire ne pas se reposer exclusivement sur les gens en charge de la réalisation, ne pas perdre de temps avec le superflu. Donc quand on fait un truc et qu'on a l'impression que ça sert à rien, eh ben, c'est intéressant de demander à d'autres personnes si ce qu'on fait sert à quelque chose. Si personne n'est capable de répondre à la question, il y a quand même de fortes raisons qu'il faille les laisser tomber. Peut-être effectivement avant de passer aux outils, refaire cette reformulation, mais je dirais que l'avantage principal des méthodes agiles, à mon sens, c'est de permettre une meilleure adéquation aux besoins, puisqu'en fait on va être capable de renégocier le champ fonctionnel du système au fur et à mesure de la mise en place des usages réels. C'est-à-dire que l'on va pouvoir commencer, alors encore une fois, hein, c'est beaucoup plus vrai en informatique que lorsque l'on construit un immeuble, puisqu'avec un demi-immeuble, en général, il est difficile de commencer à l'habiter, surtout si les travaux continuent, alors qu'en fait, quelque part, avec un demi-site web, eh bien, on peut commencer à mettre en place des usages, on peut commencer à voir ce qu'il se passe. Et donc, on va plus discuter de choses fantasmées, de choses imaginées, mais on va discuter concrètement, réellement, de l'objet que l'on est en train de construire. Et on va le faire, on va le voir avec les outils, de façon suffisamment régulière. Ça peut même être très régulier, hein. Ça peut être toutes les semaines, mais je connais des chefs de projet qui vont avoir des itérations d'une journée. Et donc chaque jour, en fait, eh bien, on va rediscuter de l'objet que l'on est en train de construire.
Voici deux choses auxquelles il faut que tu sois incessamment tout prêt. La première, de ne faire absolument que ce que te recommande, dans l'intérêt de tes semblables, la raison qui doit te régir souverainement et te dicter ses lois. La seconde, de changer d'avis si tu viens à rencontrer quelqu'un qui t'éclaire et qui te fasse renoncer à ta première pensée. Il est évident d'ailleurs que ton changement doit toujours venir de cette conviction profonde que la chose est juste ou qu'elle est d'utilité générale. Car ce ne sont jamais que des motifs analogues et aussi sérieux qui doivent te faire varier, et non pas cette considération qu'il peut y avoir pour toi dans l'idée nouvelle que tu adoptes, ou du plaisir, ou de la gloire.
Upload UTC, Stéphane Croza.
Alors on vient d'entendre Sualtam qui a effectué une lecture d'un passage de Marc Aurèle. Donc Sualtam qui met à disposition ses lectures audio d'ouvrages de philosophie sur lecture-audio.fr. Pour rebondir là-dessus, donc on voit hein, que Marc Aurèle avait déjà présenté tout le bon sens des méthodes agiles qui nous invite par exemple à changer une fonction si cela nous semble plus juste. En effet, pour agir de façon juste, il faut avoir la liberté de le faire. Ce que permettent les méthodes agiles, comme tu le disais Stéphane, en ne fixant qu'un ou deux éléments parmi trois que peuvent être le budget, les délais ou le champ fonctionnel. Vous pourrez retrouver ça sur LibreCours pour les détails. Donc ça veut dire que on n'est pas dans une philosophie du style la fin justifie les moyens, donc plutôt à la Machiavel, mais qu'on serait plutôt dans un se donner les moyens d'atteindre une fin juste à la Marc Aurèle, c'est ça?
Ouais, mais rien à ajouter, tu l'as parfaitement reformulé, Audrey, merci. On enchaîne là-dessus alors.
Donc on enchaîne finalement. Tu vois, c'était une question un peu fermée.
Ok. on va. Là, on a vraiment. On a pris du temps pour exposer tous ces principes et ça me paraît encore une fois important parce que dès lors que l'on est convaincu de ces principes, et je pense que tu viens de résumer en une ou deux phrases, on peut se reposer la question de la façon dont on gère son projet. Et à partir de là, encore une fois, donc maintenant, je vais présenter quelques outils très concrets qui nous montrent comment mettre cela en œuvre. Et j'insiste vraiment parce que une tendance que l'on peut avoir, c'est de partir de la critique des méthodes traditionnelles et de la magie ou de l'intérêt des méthodes agiles pour en fait abandonner toute forme de formalisme et toute forme d'outils. Et ça, effectivement, ça conduit au bazar et pas à ce qu'on voulait faire au départ. Je ne dis pas que la gestion, une gestion totalement informelle n'est pas possible, mais en tout cas, ce n'est pas ce que l'on souhaite présenter ici. Alors, le premier outil qui pour moi est vraiment fondamental, c'est le principe du timeboxing, hein, ou boîte de temps en français. L'idée est très simple. les itérations, donc le projet va être itératif, donc il va fonctionner par étapes itérées les unes après les autres. On va fixer un premier principe, c'est 1. Les itérations ont une durée fixe, 2. Elles sont toujours à court terme. Court terme, on peut dire que c'est inférieur à un mois, mais on est assez souvent autour de une semaine, voire 15 jours. Encore une fois, je le disais tout à l'heure, ça peut même être encore inférieur. Ça peut être par exemple ne serait-ce qu'une journée. Donc 1. Les itérations ont une durée fixe, 2. Ce sont des itérations à court terme, par exemple une semaine, et on va évaluer chaque itération à la fin, à chaque fois qu'on arrive à la fin d'une itération, on fait une séance d'évaluation, et à chaque fin d'itération, on réajuste le plan de travail. Ce qui est fondamental, c'est que ces boîtes de temps ne sont pas négociables. Toutes les semaines, si on a décidé que c'était toutes les semaines, on se voit, on se réunit et on discute de ce que l'on a fait. Si c'est pour dire, donc ce sont normalement des réunions courtes, hein, qui vont durer 30 minutes par exemple, ou une heure maximum, si c'est pour se dire qu'à un moment, on n'a pas fait ce qui était prévu, on se le dit qu'on n'a pas fait ce qui était prévu et on fait le bilan de ce qui n'a pas fonctionné. Si c'est pour se dire qu'on a fait ce qui était prévu, eh bien on ne va pas en parler très longtemps, on va immédiatement aller regarder ce que l'on a fait et on va discuter de l'objet qui a été produit. Donc encore une fois, j'insiste vraiment, l'horlogerie du timeboxing n'est pas négociable, c'est lui qui impose justement ce pilotage régulier. Si je reprends mon exemple, peut-être un peu douteux, mais du Compiègne-Marseille de tout à l'heure. Ok, je fais Compiègne-Marseille, j'ai prévu uniquement de m'arrêter à Lyon, mais toutes les heures, eh bien, je vais m'arrêter, je vais boire un café, je vais faire un point carte, et je vais prendre une décision à partir de ce moment-là. Si je ne commence à plus faire ça, eh bien, je risque de me retrouver effectivement à Bordeaux, ou que sais-je. Et donc, tout l'enjeu, c'est de ne pas être autorisé à négocier ça. C'est pas du tout quelque chose de facile dans l'expérience que j'ai de personnes qui découvrent les méthodes agiles, souvent avec des étudiants. Eh bien, il est assez fréquent de recevoir un mail. Si par exemple on a prévu un rendu le jeudi et une réunion le vendredi, de recevoir un mail le jeudi à 22h47 qui dit bon, je suis vraiment désolé mais là on n'a pas eu le temps donc on ne fait pas la réunion. Bah, c'est en quelque sorte quelque chose qu'on ne peut pas s'autoriser, c'est je suis désolé, on n'a pas eu le temps donc à la réunion on viendra présenter ça et voir comment on se réorganise. Et encore une fois, ne pas considérer que ce qui fait défaut est un problème insoluble et quelque chose de grave, mais ce qui fait défaut est normal et on voit comment le gérer. Alors bien sûr, si toutes les semaines on reçoit le même mail et que rien n'avance jamais, c'est bien le signe d'un dysfonctionnement. Mais encore une fois, on peut en prendre acte ensemble à ce moment-là. Ok, ça fait 3 semaines qu'il ne se passe rien ou que ça ne fonctionne pas, qu'on est à côté de la plaque, qu'est-ce qui se passe, comment on fait ? Alors, quelques petits éléments complémentaires là-dessus. Évidemment, pour que ça fonctionne, il faut une modularité dans la conception du projet. Hein, c'est-à-dire que si, effectivement, on a dit, on construit un immeuble, ça va être problématique. Par contre, donc, si on prend un exemple où ça va être un peu plus facile à imaginer, donc sur un site web, eh bien, on va faire en sorte de modulariser, ou une application web, hein, de modulariser suffisamment les choses, de telle façon, tout simplement, que la durée estimée de réalisation ne dépasse jamais la taille d'une boîte de temps. C'est-à-dire qu'on soit toujours capable, à la fin d'une itération, de faire le point sur le morceau d'application que l'on avait prédécoupé. Donc, exemple, j'ai déjà donné tout à l'heure, mais si on prend l'exemple d'une boîte de temps d'une semaine, eh bien, ça peut être, par exemple, tous les jeudis, on livre à 18h, et 18h, c'est 18h, c'est pas 22h47, on se réunit tous les vendredis à 14h. Voilà. Quelques petits éléments complémentaires et puis je m'arrêterai là-dessus sur les boîtes de temps, mais les livrables évidemment sont toujours antérieurs à la réunion, puisque je le répète, dans une méthode agile, on discute des livrables, on ne discute pas ni de ce qu'on a fait, ni de ce qu'on a envie de faire. Ce qu'on a fait, c'est le livrable, donc on le regarde. Ce qu'on a envie de faire, super, on en discute en fin de réunion vite fait, pour dire qu'on en parlera la fois suivante, mais on ne parle que de l'objet. Donc il faut qu'il y ait objet, il faut qu'il y ait livraison de quelque chose. Ça peut être un point de documentation, ça peut être une spécification, c'est pas forcément de l'objet concret réel, mais on discute de ce qui a été écrit, produit, d'une façon ou d'une autre. Donc, encore une fois, on ne présente pas ce qui a été fait. Pareil, un travers assez classique, c'est de commencer la réunion avec un diaporama, voilà ce qu'on a fait, etc. Rien du tout, on s'en moque de ça. Ça a été fait, ça a été livré, je l'ai regardé en tant que client, donc maintenant on en parle directement. On prend pas une minute pour faire ça et on rentre directement dans l'étude critique du livrable en tant que tel. Et deuxièmement, à la fin de la réunion, on va maintenir le plan de travail. Donc je fais le lien avec ce dont je vais parler juste après, le product backlog, mais on va maintenir le plan de travail à jour, voir ce qui a été fait, voir ce qu'on va faire dans l'itération suivante.
Si dans l'affaire qui t'occupe actuellement, tu n'obéis qu'à la droite raison avec amour, avec courage, avec douceur, sans la moindre déviation, gardant toujours pur et sans tache le génie qui réside en toi, comme si tu avais à le restituer à l'instant même, si tu sais remplir toutes ces conditions sans rien craindre et sans rien éviter, ne t'occupant que de l'acte que tu as présentement à faire, selon la loi de la nature et de l'héroïque vérité qui doit régner dans tout ce que tu dis ou exprimes, tu te conduiras aussi bien qu'il est possible de se conduire, et personne au monde ne peut te ravir ce bonheur.
Bon, alors admettons que le génie qui réside en moi et l'héroïque vérité de tout ce que je dis prennent un peu plus de temps que prévu à s'exprimer et que donc la tâche que je pensais pouvoir réaliser dans une boîte de temps ne soit pas terminée. Pourquoi est-ce que tu veux bien insister, peut-être rappeler, pourquoi est-ce qu'il vaut tout de même mieux, pourquoi c'est si important de maintenir un créneau fixe, une durée fixe de la boîte de temps, même si la réalisation prévue n'est pas terminée? Pourquoi est-ce que c'est absolument pas négociable et que je ne dois pas me reposer sur un éventuel report, hein?
Alors, je vois au moins deux raisons. La première, c'est qu'encore une fois, il faut bien qu'on pilote. C'est-à-dire que si on n'a pas planifié et qu'on pilote plus, ben en fait, on fait plus rien. Donc, comme il faut qu'on pilote, on va se réunir et on va en discuter. Ça peut être très court, ça pourra prendre 5 minutes. Je n'ai pas réussi à mener cette tâche parce que, mais du coup, on va en discuter ensemble. Je vais être au courant que tu n'as pas réussi à mener cette tâche, alors que sinon, la réunion est annulée parce que, ok, je vois ça entre deux mails et puis je peux oublier. Là, du coup, on va se rencontrer. Je vais savoir pourquoi concrètement tu n'as pas pu mener cette tâche et on va prendre la décision ensemble. Tu vas me dire que c'était un problème conjoncturel et qu'il n'y a aucun problème, que tu vas le faire la semaine suivante. On va être d'accord là-dessus. Au contraire, je vais peut-être sentir que peut-être par des principes que l'on a vu d'automanipulation, non, mais il n'y a pas de problème, je vais y arriver, etc. Mais moi, je vais peut-être sentir que ce n'est pas le cas. Et du coup, peut-être qu'à ce moment-là, je vais pouvoir te dire, peut-être que finalement, on peut la laisser de côté, cette tâche, on peut repasser à autre chose. Encore une fois, on va créer un peu de collectif et à travers ça, eh bien, on va gérer petit à petit les éléments. Donc, c'est, pour moi, c'est une des premières raisons, c'est que du coup, ce temps, eh bien, s'il y a eu un problème, c'est une bonne raison pour se voir. Et s'il n'y a pas eu de problème, c'est une bonne raison pour se voir aussi, pour parler de la suite. Donc, en gros, on a toujours une bonne raison pour se voir. J'ai envie aussi d'ajouter un deuxième élément, c'est le fait de ne pas négocier avec ces réunions, c'est aussi s'enlever une protection, une possibilité de fuite. C'est-à-dire que si on a la possibilité d'annuler la réunion, on va l'utiliser, et puis on peut l'utiliser de plus en plus souvent. Et puis encore une fois, on a le risque à ce moment-là que les choses se délitent un petit peu. Encore une fois, pour moi en tant que client, avant la réunion, j'ai besoin d'aller regarder le livrable. Donc, il faut aussi que je me ménage un temps dans mon espace dans mon planning. Il faut aussi que j'ai, entre le moment où tu livres et le moment où on va se voir en réunion, il faut aussi que j'ai le temps d'aller regarder ce que tu as livré. Donc, ça suppose aussi pour moi une organisation. Si tout ça est tout le temps chamboulé, un coup on fera pas la réunion, un coup on fera la réunion, mais j'aurai pas vu le livrable. Donc, on pourra pas faire ce qu'on a dit, c'est-à-dire discuter de l'objet et pas d'autre chose. Et puis un jour, etc., etc. Et du coup, ça te redeviendra le bazar. Pour continuer d'ancrer un petit peu les choses, on a vu premier principe des méthodes agiles, un des premiers outils, des méthodes agiles, la boîte de temps, que l'on trouvera, je crois, dans toutes les méthodes. Un des deuxièmes outils, qui est assez transverse, c'est le product backlog. Pas vraiment de traduction qui aille bien en français, à mon sens. On peut parler d'une sorte de to-do list structurée, mais du coup, to-do, c'est pas très français non plus. Donc, on va garder Product Backlog. L'idée est la suivante. En début de projet, on va établir la liste de tous les besoins qui sont exprimés, tout ce qu'on a envie de faire. Il peut y avoir plusieurs formes. On peut adopter une forme fonctionnelle. Je vous montrerai tout à l'heure, on aura peut-être le temps de parler un petit peu des user stories. Ça peut être une autre façon de faire, peu importe. L'idée, c'est que on va avoir un moyen d'avoir inscrit, posé, tout ce qu'on a envie de faire. Presque sans se mettre de limites. Alors évidemment, il ne s'agit pas non plus d'aller exprimer des choses totalement absurdes dont on sait très bien qu'on ne les fera jamais, mais on s'autorise à poser y compris des choses qui paraissent difficiles ou qui paraissent moins utiles, etc. etc. Une fois que cela est fait, on va prendre chacune de ces fonctions, et là, pour le coup, on va les qualifier, les hiérarchiser en fonction de leur importance, en termes d'usage, leur degré d'utilité, en termes de délai, on en a besoin plus ou moins vite, en termes de difficulté, de coût de réalisation, etc., etc. Donc on va avoir comme ça une vision à la fois de tout ce qu'on a envie de faire et puis de ce que nous coûte chaque morceau du produit que l'on vise. Mais on voit que si on a hiérarchisé les choses, c'est-à-dire cette chose-là est plus importante que celle-là ou plus urgente, on les a pas organisées dans le temps. Pour autant, on n'a pas encore pris la décision que cette fonction F1, on va la faire obligatoirement avant F2. Non, on sait qu'elle est plus urgente, on sait qu'elle est plus coûteuse, par exemple. Du coup, on fera peut-être F2 qui est moins urgente mais moins coûteuse. On se laisse encore cette possibilité-là. Alors, quand se passe justement la planification, comme on l'a vu tout à l'heure, elle va se placer uniquement au niveau micro, c'est-à-dire au niveau de chaque boîte de temps. En fait, on va commencer chaque boîte de temps par le fait d'aller piocher dans le product backlog les tâches que chacune des personnes qui réalisent des choses dans le projet eh bien, va faire au cours de cette itération. Donc si on a une liste d'une dizaine de tâches et que par exemple on est tous les deux Audrey en réunion, eh bien, on va décider ensemble que, si c'est toi qui réalises et que c'est moi le client, on va décider ensemble que okay, cette semaine tu vas t'occuper des tâches T1 et T2, peu importe, sachant que, eh bien, on a évalué qu'en termes de quantité de travail estimée, ça correspond à peu près à la durée d'une itération. Alors bien sûr, pendant la durée de cette itération, il va se passer des choses. Peut-être qu'il y en a une en fait que tu n'arriveras pas à faire. Tu la jetteras, on la mettra de côté, on en reparlera à l'itération suivante. Peut-être qu'il y en a une qu'au contraire, tu vas faire beaucoup plus rapidement que ce qui était prévu. Tu iras piocher de toi-même une tâche sans m'en parler et tu la réaliseras. Et ça, on en fera le bilan à l'itération suivante. Alors peut-être qu'en fait, prenons un cas un peu, un cas local pire, hein. Peut-être qu'en fait, bah, il y a une tâche que t'as pas réussi à réaliser. Celle que t'as faite vite, bah, tu l'as faite vite, mais en fait, c'était pas du tout ce qu'il fallait faire. Et puis, t'as été empioché une autre dont on n'avait pas besoin. Soit, on a, entre guillemets, perdu une itération pendant laquelle on n'a pas fait ce qu'il fallait. On a perdu une semaine. On n'a pas perdu 10 ans de projet. Et c'est des choses qui arriveront. Puis, évidemment, il y a des fois, on aura au contraire une bonne surprise. T'auras pas réussi à faire une tâche dont on n'a pas besoin. T'auras fait vite et parfaitement la tâche que l'on voulait. Et en plus, t'auras rajouté un truc dont on avait expressément besoin. Et on m'avait dit entre temps que il fallait faire ça rapidement. Donc, encore une fois, l'idée, c'est que on s'autorise ces surprises. Et comme on a une régulation suffisamment fréquente, eh bien, ce sera jamais des, trop grave, mauvaise surprise. Alors il y a des outils là très très concrets, là j'ai parlé de l'outil au niveau un petit peu méta, mais il y a des outils très concrets qui permettent de faire ça. Donc l'outil le plus populaire, on va dire, s'appelle Trello, c'est un outil propriétaire, et une de ses alternatives libres, c'est Kanban, et donc vous pouvez trouver à l'adresse kanban.picasoft.net un exemple de gestion par Kanban. C'est Wecan l'outil qui est chez Picasoft, sauf erreur. Kanban est un autre exemple d'outil. Et donc, vous pouvez trouver une gestion par Kanban numérique d'un product backlog.
Imaginons que ce soit, un Kanban pour Picasoft. Donc, dans Picasoft, on a pas mal de trucs en attente. Et puis, on va imaginer qu'on a 3 trucs à faire. On a remplacé un disque dur. Mettre à jour la documentation de Mattermost, parce qu'elle commence à dater, et puis par exemple, aller communiquer sur le prochain atelier. Alors, une fois que j'ai créé ces tâches, eh bien, je peux, au fur et à mesure de leur avancement, les déplacer, tout simplement en faisant du drag and drop. Donc, je clique sur la tâche, je maintiens le clic appuyé, et puis je me déplace. Donc, par exemple, j'ai commencé à remplacer un disque dur. Alors c'est bien sympa, on peut déjà commencer à travailler comme ça, mais pour l'instant je suis tout seul sur mon tableau. Et honnêtement, en général, dans un projet, il y a quand même plusieurs personnes qui collaborent, et c'est là un des intérêts de Wecan, c'est de pouvoir rajouter des participants au tableau. Alors par exemple, ici je vais rajouter des camarades de Picasoft, donc on va dire que je vais rajouter Sarah, et puis je vais rajouter...
Alors on vient d'entendre Quentin donc nous de l'association Picasoft nous présenter donc un petit bout d'usage de Wecan, mais évidemment ce sera plus parlant d'aller faire vos tests vous-même, ce que je vous invite à faire. On a présenté rapidement mais les principes de timeboxing et de product backlog. Je pense vraiment moi que ce sont les outils les plus structurants. Je vais mentionner très rapidement quelques autres outils mais rapidement puisque le temps tourne. Donc le principe des user stories ou petites histoires. Il en existe plusieurs variantes, celle que je présente dans le cours n'est pas forcément la plus typique, mais elle consiste à raconter dans des petites histoires d'une dizaine de lignes environ, une situation d'usage. Et cette situation d'usage va permettre de visualiser les fonctions pertinentes. Voilà, donc c'est un des outils que l'on trouvera également dans les méthodes agiles. Encore une fois, je ne prends pas plus de temps. Autres outils qui me paraissent moins intéressants, c'est tous ceux qui permettent la gestion quotidienne de l'activité. Le journal de bord permet d'enregistrer au fur et à mesure ce qui est fait. L'idée est assez simple, en fin de journée, on prend 5 minutes et on consigne, par exemple dans un pad partagé en ligne, eh bien ce que l'on a fait aujourd'hui tout simplement, ça permet de s'en souvenir. S'en souvenir pour la réunion qui viendra justement en fin d'itération. Hein. On va également gérer des fiches de temps qui permettent d'associer, alors ça peut être sur le même pad ou dans un tableur complémentaire, ça peut se gérer aussi à travers les Kanban numériques. On va gérer le coût réel de la réalisation, le temps que l'on a passé à faire ce que l'on a fait. On peut même aller jusqu'à associer des principes d'auto-évaluation, c'est-à-dire noter soi-même lorsque l'on a fini une tâche, et bien si on estime l'avoir faite correctement ou pas. Encore une fois, il ne s'agit pas de se flageller, hein, de dire ce qui, voilà, qu'on a été sage ou pas sage, mais de bien marquer, d'informer rapidement le client du type, ça peut être une notation par exemple 0, 1, 2, 3, je sais que moi j'aime bien utiliser ça, c'est assez simple, hein, 0, bah, non livré, on ne l'a pas fait, 1, on sait que ce qu'on a fait ne correspond pas aux attentes, si on sait autant le dire, on va gagner du temps, 2, ça correspond aux attentes mais on a identifié un certain nombre de défauts, et 3, ça correspond aux attentes et il n'y a pas de défaut notable selon nous. Peut-être dernier outil rapide, donc les outils de communication dont on a parlé. Eh bien, dans les outils de communication, aujourd'hui, les outils qui sont beaucoup utilisés sont des outils donc de chat structurés. Le plus connu est Slack, donc dans les outils propriétaires, et Mattermost, donc version libre décentralisée que l'on utilise chez Piscasoft. Dans le domaine informatique, j'ai également déjà mentionné l'outil de versionning Git, qui s'agence avec GitLab dans sa version libre ou GitHub dans sa version propriétaire. Vous voyez que je fais l'effort de citer un outil propriétaire à chaque fois. Voilà pour cette présentation d'outils. Alors, je vais te tendre une perche, Audrey, à mon tour. On aime bien parler d'outils conviviaux. Donc, est-ce que Mattermost est plus convivial que Slack, etc. Ce terme est passé un peu dans le langage commun d'une certaine façon, mais peut-être que tu as envie de nous en parler un peu différemment.
Oui, effectivement, je vais vous en parler rapidement. Mais la convivialité, quand on parle d'outils convivial, la convivialité, c'est un concept du philosophe autrichien Ivan Illich. Alors, Ivan Illich, il est connu en particulier pour sa pensée de l'écologie politique et puis pour sa critique de la société industrielle. Il est notamment à l'origine des concepts de monopole radical, de contre-productivité, mais donc d'outils convivial. Et c'est ce dernier concept donc, dont je vais vous parler rapidement. Ivan Illich présente ce qu'est un outil convivial dans un essai publié donc, en 1973 qui est intitulé « Tools for Conviviality » que vous retrouverez en français sous le titre donc, de la convivialité. Vous avez les éditions Point ou Du Seuil. Bref, dans ce livre, Illich définit trois critères pour qualifier ce qu'est un outil convivial. Donc trois choses à trois critères. Donc il ne doit pas dégrader l'autonomie personnelle en se rendant indispensable. Il ne suscite ni esclave ni maître et il élargit le rayon d'action personnelle. Il explique notamment avec les termes de société conviviale. Il écrit j'appelle société conviviale une société où l'outil moderne est au service de la personne intégré à la collectivité, non au service d'un corps de spécialistes, convivial est la société où l'homme contrôle l'outil. Alors, si l'outil est effectivement ce qui est mis au service d'une intentionnalité, ou, c'est-à-dire si l'outil est un moyen pour atteindre une fin donnée, alors on peut considérer peut-être que l'agilité est en soi un outil pour la gestion de projet, et à partir de là, comme on fait rapide, je conclurai là-dessus, à partir de là, je voudrais juste vous laisser avec une question à laquelle vous pouvez essayer de répondre. Si l'on prend les trois critères d'Illich 1 à 1, pour vous, est-ce que l'agilité est une méthode de gestion de projet conviviale? Et est-ce que les outils que l'on a présentés sont conviviaux?
Alors, on arrive effectivement en fin et on est un peu pressé, Audrey, mais est-ce que tu peux néanmoins nous rappeler ces trois critères? Parce que je trouve vraiment que c'est un point assez important, enfin très important. Et j'invite même, du coup, les personnes qui nous écoutent à se poser les questions avec ces trois critères, non seulement sur les méthodes agiles, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui, mais pourquoi pas à se les poser sur l'ensemble des outils numériques en particulier qu'ils utilisent tous les jours. Tu veux bien nous les rappeler?
Absolument. Donc, l'outil convivial ne doit pas dégrader l'autonomie personnelle en se rendant indispensable. Il y a bien la question d'autonomie. Il ne suscite ni esclave ni maître et il élargit le rayon d'action personnelle.
Alors ça aurait été une bonne conclusion et en plus on aurait été dans les temps, mais ce serait quand même pas très honnête de ma part de terminer cette présentation sans discuter un petit peu les limites en quelque sorte des méthodes agiles. Hein. Alors je vais les mentionner très très rapidement. On pourrait largement faire un débat complet autour de ces questions-là, mais donc je vais les poser rapidement. Hein. Donc une première critique que l'on peut entendre, c'est le vite fait mal fait, c'est-à-dire qu'on a parlé tout à l'heure par exemple de rapid application development. Hein. Bah voilà. Encore une fois, le fait d'avoir des cycles rapides ou d'être proche des produits ne doit évidemment pas être un prétexte à bâcler ou à ne pas réfléchir. Hein, d'où cette idée plutôt de rythme rapide que de réalisation rapide. Ce sont deux choses différentes. Hein. On peut avoir un rythme rapide. Je suis pas très musicien, mais on peut faire de la musique à la fois rapide et de qualité. Hein. C'est pas parce qu'on fait vite que c'est pas bon. Deuxième point, ce que j'appelle la valse des parapluies, hein, pour que quelque chose fonctionne, il faut à un moment que les individus s'engagent, et donc on pourrait reprocher un peu, hein, que si tout le monde est un peu chef de quelque chose, que chacun fait un peu ce qu'il veut, bah du coup quand ça dysfonctionne, in fine, bah voilà, on sait pas bien qui c'est le responsable. Bon, quand on voit la réalité de la gestion des responsabilités dans les entreprises, c'est pas toujours de toute façon beaucoup à envier. Un autre problème qui pour le coup est peut-être un peu plus concret, c'est vraiment la question du turnover, c'est-à-dire que comme les approches agiles sont très ancrées sur les personnes, eh bien, dans des projets dans lesquels ces personnes tournent beaucoup et s'en vont, reviennent, eh bien, effectivement, c'est une vraie difficulté. Hein. Un petit point à côté que je mets quand même, allez, non, je vais le faire avec le c'est qui commande, hein, mais pareil, voilà, une question un peu habituelle, c'est qu'à un moment, on a envie quand même d'avoir une tête qui dépasse. Alors, pour que ça fonctionne aussi dans les méthodes d'agile, hein, deux, trois points, mais il faut pas qu'il y ait une dépendance trop forte entre client et prestataire. S'il y en a un qui prend le dessus sur l'autre, eh bien ça risque de tordre le fonctionnement horizontal. Un autre truc aussi qu'on entend parfois, c'est alors encore une fois, hein, je me fais un peu l'avocat du diable, hein, mais le côté quand les gens s'entendent trop bien, hein, entre clients et prestataires, c'est pas normal, hein, ils cachent un truc là. Comment ça se fait qu'ils soient tout le temps en train de rigoler et puis d'être d'accord sur tout. Donc voilà, mais encore une fois, hein, ça peut nous renvoyer aux questions de convivialité en reprenant peut-être le sens un peu plus trivial. Dans les autres difficultés que l'on peut rencontrer, c'est la difficulté pour les méthodes agiles de répondre aux exigences des systèmes qualité ou d'une façon générale des outils de régulation extérieure. Hein, le fait qu'on documente moins les processus peut être une difficulté. Voilà, et que l'on va retrouver par exemple dans les appels d'offres ou les cadres réglementaires, ça peut être un peu une difficulté. Eh bien, mon temps étant écoulé, le temps étant écoulé, je propose d'arrêter là-dessus. Les discussions pourront se poursuivre si vous le souhaitez sur Mattermost ou dans un autre cadre. Audrey, je te laisse conclure.
En effet, alors, avant de détruire le studio, donc, hein, on va vous laisser là. Alors, les émissions sont à réécouter sur graphite.net et sur les chaînes PierreTube, Aperi.tube. Vous pouvez retrouver le support de cours sur librecours.net. Il y a également des exercices pratiques avec lesquels approfondir les notions dont on vient de parler. La semaine prochaine, on va se retrouver pour un cours émission sur le thème de lire, écrire, argumenter, c'est-à-dire qu'on va parler de réfutabilité, de rhétorique, etc. Et puis donc, en effet, je répète, n'hésitez pas à nous rejoindre sur team.picasoft.net équipe WE01 pour échanger avec nous poser des questions, et puis en attendant la semaine prochaine, voilà. On se quitte donc avec un dernier conseil de Marc Aurèle à méditer peut-être.
À toute heure, songe sérieusement, comme Romain et comme homme, à faire tout ce que tu as en main, avec une gravité constante et simple, avec dévouement, avec générosité, avec justice. Songe à te débarrasser de toute autre préoccupation. Tu t'en débarrasseras si tu accomplis chacun de tes actes comme le dernier de ta vie, en les purifiant de toute illusion, de tout entraînement passionné qui t'arracherait à l'empire de la raison, de toute dissimulation, de tout amour-propre et de toute résistance aux ordres du destin.